de Chartreuse.
Votre magazine d'infos locales.
Échanges.
Curiosités.
Divertissements.
Infos de proximité.
Actions culturelles et éducatives.
Environnement.
Bouillon de Chartreuse.
C'est en Chartreuse.
Pour la Chartreuse.
Rien qu'en Chartreuse.
Et bienvenue dans ce deuxième opus de Bouillon de Chartreuse consacré au festival zygomatique qui se déroule du 27 mars au 13 avril avec ce soir un dernier spectacle, la méthode urbain à la salle des fêtes des échelles avec les décatalogués. Pour cette deuxième partie, nous avons voulu, Philippine et moi-même, nous immerger dans la partie off du festival. La partie off du festival, c'est la maison des amis, quelque part au fond des bois, à Corbeil. Celle où se retrouvent tous les soirs, et tous les matins aussi, les artistes et les bénévoles du festival. Nous voilà donc partis, Philippine et moi-même, en ce jeudi 4 avril, matin neigeux et ouaté, vers 11h, en direction d'un quelque part bien mystérieux. Philippine nous livre quelques-unes de ses impressions lors de cette échappée belle.
Mais bien sûr, Odyssée blanche, au fin fond de la Chartreuse, avec comme moyen de transport, et heureusement, la Fiat Panda 4x4 de Sophie. Nous prenons la route bien enneigée de Corbeil pendant plusieurs et longs kilomètres avant de prendre la tangente sur un chemin forestier dont la hauteur de neige fait tanguer notre petite embarcation de droite à gauche. Et là, c'est le début de l'aventure. À droite, un ravin. À gauche, un mur. Un seul choix, aller tout droit. Nous nous interrogeons sur notre possible, éventuel et potentiel, je dirais même supposé, arrivée dans la fameuse maison qui, pour le coup, était vraiment au fond des bois. Tous ont douté, tous furent surpris de nous voir, mais nous vaquîmes et arrivâmes, auréolés de gloire.
En effet, ils ne s'attendaient pas à nous voir. Ils ont cru qu'on allait renoncer, mais on ne renonce pas si facilement à Radio Couleur Chartreuse. Alors, rapidement remise de nos émotions, nous avons tendu le micro aux artistes et bénévoles ensommeillés à 11h du matin qui buvaient leur café pour prendre le pouls de l'ambiance du cru. Et c'est d'abord Charlène, bénévole, qui nous a expliqué ses motivations à participer au festival. On écoute Charlène.
Alors, ben là, on est toujours dans la maison, plus spécifiquement dans la cuisine, et on vient de croiser Charlène. Donc Charlène, elle est aujourd'hui bénévole au sein de l'association Instinctap. Mais avant d'être bénévole, bonjour Charlène, avant d'être bénévole, elle était service civique dans l'association.
Oui, l'année dernière, oui.
Alors, est-ce que tu peux nous expliquer, Charlène, d'abord comment tu es arrivée service civique dans l'association et pourquoi tu as voulu rempiler en tant que bénévole?
Alors, c'était par hasard, le service civique. Je suis tombée sur l'offre d'organisation d'événements d'Instinctaf. Et je ne me suis pas plus posé de questions que ça, en fait. J'ai tenté, je les ai rencontrés, ils étaient super amicaux, c'était très convivial. Et surtout, ça me tentait, tout simplement. Et donc, je suis restée 6 mois, ça s'est super bien passé, j'ai que des bons souvenirs. Tellement bien passé qu'ils m'ont rappelé là, en février, car ils étaient en sous-effectif. Ils avaient besoin d'aide, donc j'ai dit oui, parce que j'avais du temps. Donc j'ai commencé par 2 jours par semaine, et puis après 3 jours, et puis maintenant, voilà, je suis sur le festival.
De A à Z, donc.
Exactement.
D'accord. Et alors, tu es d'où, toi ?
Domessin.
Domessin, d'accord. C'est voilà. Pas tout à fait la part à côté
Oh, c'est pas très loin, 40 minutes de Corbeil.
Mais tu rentres à chaque fois ou tu fais partie des bénévoles qui séjournent ici ?
Non, je séjourne ici la plupart du temps, oui.
D'accord. Alors, tu as déjà participé à d'autres événements que celui du zygomatique en termes d'événementiel ?
Non, c'est tout premier, mais j'aimerais bien en faire plus.
Tu aimerais bien en faire plus ?
Oui.
Ben, ça, c'est une bonne première, en fait.
Oui, exactement.
D'accord.
Une bonne entrée.
Alors, qu'est-ce que tu retiens de particulier dans l'organisation de ce festival qui te motive, toi, à être bénévole et qui pourrait déclencher d'autres engagements bénévoles parmi nos auditeurs à Instinctaf?
Alors, dans les membres du bureau et les bénévoles, c'est la passion, la solidarité. On a tous envie de donner un coup de main, même quand on n'a pas beaucoup de temps. On fait le plus qu'on peut, en fait. On fait avec ce qu'on peut. Et sinon, même la convivialité, tout simplement, hein, avec les artistes,
c'est bon
également.
Enfant,
c'est vraiment tout le monde au même niveau et c'est génial.
D'accord.
Voilà.
Donc tu reviendras, si je comprends bien.
Ah bah oui. Oui, c'est pas une surprise.
D'accord. Ben, merci Charlène.
Merci à vous.
C'est ensuite Héloïse que nous avons écoutée, coordinatrice du festival. Elle nous a fait un rewind historique de ce sympathique festival.
Alors, on continue avec Héloïse, qui est donc coordinatrice à Instinctaf depuis 11 ans.
Depuis le début, bonjour Héloïse.
Bonjour.
Alors, Héloïse, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est cette association Instinctaf qui organise, entre autres, le festival du zygomatique ?
Alors, l'association Instinctaf, elle a été créée en 2005 par une bande de copains, comme beaucoup d'associations, techniciens du spectacle, tous. Et l'idée, c'était d'avoir un outil qui permette de monter des projets. Alors, par exemple, le premier projet qui a été monté, c'était en lien avec une association de protection du littoral Corse, en Corse. Et donc, c'était une soirée nettoyage d'une crique et organisation d'un événement pour sensibiliser aussi à la protection, tout en se faisant plaisir avec un apéro contemplatif devant le coucher de soleil.
Très, très sympa.
Je vote pour.
Là, on était très loin de la Chartreuse, mais en fait, c'est l'association est née en Chartreuse. Mais donc les premiers projets étaient. On n'a pas de lieu à nous, en fait. L'association Instinctaf, on n'a pas de lieu. Ce qui fait que les projets se montent au gré des rencontres, des envies, des opportunités. Et donc, voilà, l'association avait pour but de faire de la scénographie, de l'organisation de spectacles et la construction de décors. Donc, on est parti de là il y a 10, 11 ans, 12 ans.
Alors, tu nous dis, on n'a pas de lieu, vous avez quand même un siège qui est aux échelles. Mais à partir de là, vous êtes un peu des saltimbanques et vous allez où le vent vous porte, si je comprends bien, en fonction des idées, des suggestions, des...
C'est vrai qu'en fait, nous, quand je dis qu'on n'a pas lieu, bien sûr, on a un siège, on a des bureaux, ce qui était d'ailleurs vital pour que l'association puisse se développer et devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Mais quand je parle d'avoir un lieu, c'est un lieu de diffusion de spectacles où on pourrait accueillir du public et on pourrait faire nos soirées chez nous. Là, le fait de ne pas avoir de lieu, en même temps, c'est chouette, c'est parce que ça nous oblige aussi à aller vers plein d'autres acteurs qui ne soient pas forcément du milieu culturel pour organiser des événements. Donc, on a... depuis le temps, on a tissé des liens vraiment privilégiés avec certaines structures, comme le site des Grottes de Saint-Christophe, comme on a fait beaucoup de spectacles à la ferme de la Berthe aussi. Il y a des fois, on a tenté des trucs qui étaient parfois plus compliqués, à la Ruchère par exemple, à la Ruche Agitée, avec des équipes qui sont super sympathiques, qui nous accueillent. Et on se retrouve sur un même état d'esprit, envie de faire bouger, d'organiser des événements, de faire des choses ensemble, localement.
Partager,
voilà. C'est vrai qu'on est... vraiment très ouvert au niveau artistique, donc on se contente pas à faire que des spectacles d'humour par exemple, ou que du théâtre ou de la chanson. Ce qu'on aime, c'est vraiment varier les styles. Et après, c'est en fait l'essentiel, c'est d'ailleurs pas pour rien que ça s'appelle Instinctaf, c'est qu'il y a aussi une dimension instinctive dans les rencontres, les gens qu'on rencontre et avec qui on a envie de faire des choses. Ou des fois, c'est façon petites annonces, on rencontre par hasard quelqu'un qui nous dit moi je cherche un truc en spécifique, je sais pas, ça va être un décor par exemple. Et puis de fil en aiguille, chacun présente son projet, ses compétences, comment on peut se complémenter. Et puis voilà, c'est comme ça que se montent après des aventures qui des fois partent sur des petits trucs et deviennent en fait des aventures récurrentes. Ou...
Comme le zygomatique,
voilà. Le zygomatique festival, quand il a été créé en 2009, si je dis pas de bêtises... quand le Zygomatic Festival a été créé, en fait, c'est parce qu'on avait découvert la salle Notre-Dame. La salle Notre-Dame à Saint-Pierre-d'Entremont, qui est un théâtre, un vrai petit théâtre en montagne. Et quand on a vu ce petit écrin à spectacle, là, il y avait tous les outils sur place. On a dit là, faut qu'on fasse un truc. Et puis on avait envie d'avoir un lieu en Chartreuse pour développer des projets localement, parce que comme on avait des aventures à droite à gauche, on avait quand même une envie de faire quelque chose avec les gens, avec le territoire où on était installé. Et donc, le zygomatique est parti de là. Donc, au début, il y a eu deux dates à la salle Notre-Dame, puis trois. La troisième année, je crois, je ne sais pas si on n'est pas passé à quatre dates déjà. Mais très rapidement, on s'est rendu compte que pour un festival donc avec des spectacles tous les soirs, si on restait au même endroit, on touchait toujours les mêmes personnes. Et donc, ben, naturellement, l'itinérance s'est imposée à nous. L'idée, c'était, bon, ben, nous, on va aller vers les gens et on va amener les spectacles là où ils ne sont pas forcément. Et du coup, ça nous a amené à rencontrer plein de monde. Et c'était, voilà, c'est une très belle aventure qui est partie il y a 10 ans de ça et qui a bien évolué.
D'accord. Alors, on en est à la 11e édition, Héloïse. Et il y a plein de choses qui doivent commencer à tourner parce que c'est rodé hein, dans votre organisation. Ton rôle à toi en particulier, c'est quoi ?
Alors, moi, je travaille en amont parce que le nerf de la guerre, quand même, c'est l'argent. Il faut en trouver, en fait, les ressources de l'association Instinctav. Si on schématise, en gros, les ressources de l'association, si on schématise en gros, ça va être un tiers la billetterie des spectacles, un tiers les subventions publiques et un tiers les fonds privés, sponsors, mécénats, voilà, on va chercher. Moi, mon travail à l'association Instinctav, c'est monter des dossiers de subventions et puis après, c'est faire des tâches administratives pour s'occuper d'une association. Donc, il y a de la comptabilité, il y a de l'administratif, il y a de la communication, très important la communication. Et voilà, c'est un peu touche à tout quand même. C'est vrai que c'est ce qui me plaît aussi dans ce travail, c'est que on travaille tout, on est une équipe et on travaille tous ensemble.
Bravo quand même pour cette année, parce que l'année dernière, les bruits qui couraient concernant la viabilité de l'association Instinctav laissaient à penser que c'était peut-être la dernière édition. Donc on a cette agréable surprise de voir refleurir une 11e édition cette année. Donc bravo pour le travail réalisé à ce niveau-là. Et on peut espérer qu'il y ait d'autres années derrière qui suivent avec le zygomatique.
Alors, on espère toujours, mais c'est vrai que...
Ou est-ce que c'est une bataille de chaque année que de repartir avec le bâton de pèlerin, chercher ses subventions
C'est ce que j'allais dire, en fait. Il y a beaucoup de gens qui nous côtoient depuis des années et on en rigole. On dit souvent, mais oui, ça fait 10 ans qu'on va mourir demain. Ouais. On est toujours là. C'est toujours là. C'est Frédéric Promet aussi qui disait ça dans une chanson. Et mais c'est vrai qu'en fait, on ne peut pas se reposer sur ses lauriers. On a peu de ressources humaines, je veux dire en termes de moyens pour salarier des personnes. Il faut quand même savoir qu'Instinctav, c'est des professionnels du spectacle. C'est-à-dire que nous, on ne veut pas faire venir des artistes qui travailleraient bénévolement ou des techniciens qui seraient 100% bénévoles. Étant des professionnels du spectacle, on essaye toujours de rémunérer les intervenants. Donc ça demande de trouver des fonds pour le faire. On ne va pas demander à un boulanger de faire son pain gratuitement. Donc voilà, pour arriver à faire vivre une association culturelle et des projets culturels, il faut se battre. Et chaque année, par exemple pour le Zygomatique Festival, chaque année on retourne voir les communes et on fait le tour des popotes qui est prêt à accueillir et à participer financièrement à soutenir le Zygomatique Festival pour que cette aventure puisse reprendre, parce qu'on est toujours, sur le fil de rasoir à l'équilibre, on est toujours avoir besoin de renforts bénévoles, parce que sans les bénévoles on ne pourrait jamais faire tout ça.
Cette année mobilisée pour le festival.
Pour le festival, je dirais qu'il y a une vingtaine de bénévoles autour d'une équipe.
C'est le chiffre habituel que vous avez ou...
Alors sur le Zygomatique Festival, c'est à peu près ça, oui. On va dire 15-20 bénévoles en complément d'une équipe de 5 à 7 professionnels.
Voilà. D'accord. Ok. Alors en dehors du Zygomatique, on a vu dans le détail, on le verra dans l'émission qui va passer, tous ceux qu'on aura sur la Chartreuse, puisque nous c'est la Chartreuse qui nous intéresse. On a vu le parrain, on a vu le directeur artistique avec Loïc Lallier. Instinctav organise d'autres événements au-delà du Zygomatique. Est-ce que tu peux nous en toucher deux mots ?
Alors cet été...
Soit locaux d'ailleurs. Soit en dehors de la Chartreuse, bien évidemment, parce qu'il n'y a pas que la Chartreuse, même si en tant que chartroussin, il n'y a pas que la Chartreuse au niveau des spectacles, heureusement.
Alors, notre actualité, ça va être... après le Zygomatique Festival, on a deux jeudis des gens, qui sont des soirées, donc le jeudi soir. Je crois que c'est deux soirées concerts qui sont prévues, du côté de Saint-Christophe-la-Grotte et... Je sais plus, mais je vais peut-être éviter de l'annoncer, ça se trouve, ils ne sont pas encore au courant.
N'en parlez à personne. Ça va se passer en avril, en mai
De tête, je dirais mai et juin.
D'accord.
Comme ça. Ça, c'est des soirées le jeudi soir. On varie vraiment les styles. On va du théâtre à la chanson, à du mime, à je sais pas, bah, des fois aussi un peu d'humour. Voilà, le but des Jeudis des gens, c'est faire des spectacles éclectiques. C'est le jeudi soir, voilà, et on doit en être à peu près à la 70e édition des Jeudis, puisque les Jeudis des gens ont pris la suite des Jeudis de Saint-Jean, qui avant se passaient à Saint-Jean-de-Cou. Mais là, encore une fois, les aléas ont fait qu'on est parti sur de l'itinérance. Et du coup voilà, les Jeudis des gens, et puis on prépare l'été avec les Mardis de Rivière-Alpes. Donc là c'est du 15 juillet au 15 août sur la base de loisirs de Rivière-Alpes. On organise des spectacles, c'est assez tôt, c'est sur le coup de 19h-19h30. Le but c'est d'avoir là des événements familiaux, et c'est des spectacles en plein air. Donc on est au pied des falaises de Chartreuse, on est aussi au bord de l'eau. C'est vraiment magnifique comme cadre. Et donc là on va attaquer la 4e saison des Mardis de Rivière-Alpes, ou comment mettre en valeur un site touristique, un site d'activité pour le faire connaître plus largement, communiquer autour de ce lieu, tout en proposant des spectacles pour les locaux, les touristes, enfin tous les
ça
publics.
Ça interagit avec le public, j'imagine, ces Mardis de Rivière-Alpes.
Ça fonctionne très bien. Ouais, ça. Dès la première année, on a été surpris du succès. Vraiment, les gens répondent à l'appel. C'est assez sympa parce que c'est très varié les styles aussi quand on fait un musette, ou quand on fait une soirée cirque ou un concert, on s'adresse à des publics différents. Mais ce qu'on aime bien, nous, c'est toujours programmer des spectacles qui sont quand même assez tout public. C'est-à-dire que même si c'est un spectacle enfant, on aime bien qu'il y ait un double langage pour que ça plaise aux adultes. Voilà. Et c'est un petit peu le défi, c'est d'arriver à faire des spectacles qui sont grand public, qui vont attirer du monde, mais en amenant aussi parfois des formes artistiques originales que les gens vont pas forcément voir en premier lieu à la télé. Mais voilà, on aime bien aussi surprendre.
On voit que tu parles de ça avec passion. Rapidement, est-ce que tu peux nous brosser aussi, sans nous donner le détail de toutes les dates, parce qu'on est hors Chartreuse, mais vous organisez aussi des événements ou des spectacles hors territoire chartroussin?
Alors là, tout de suite, je crois qu'on n'en a pas prévu en 2019. Okay. À vrai dire, en 2019, on avait quand même prévu de lever le pied un petit peu, et on s'est fait embringuer dans un zygomatique festival qui n'a jamais été aussi gros. On est passé à 12 dates au lieu de 9.
Ah oui.
Donc je pense que...
Donc 15 pour l'année prochaine.
Ah non, on va y aller doucement, du coup, on est déjà parti pour faire les Jeudis, l'été. L'été, c'est aussi la grosse période de repérage, où là, on va par Mons et par Vaux sur les festivals comme Avignon, le festival off d'Avignon, Chalon dans la rue, Le Bonheur des Mômes, Festival des humoristes de Tournon. Et nous, on va rechercher les spectacles à proposer. Voilà. Donc, c'est aussi un gros travail qui ne se voit pas, mais qui est fondamental pour arriver à avoir mettre notre pattes comme ça sur une programmation et proposer des œuvres vraiment sympathiques, enfin des choses qu'on aime en tout cas. Et après, il y a aussi un festival de conférences gesticulées qui est né l'année dernière, qui a été une coordination avec d'autres structures, dont l'Alternateur, la Recyclerie des Échelles, dont la Ferme de la Berthe à Saint-Franc, avec un partenariat avec le cinéma du Moncelet. C'est des aventures comme ça qu'on aimerait bien relancer, mais c'est toute la difficulté, c'est trouver aussi les moyens financiers pour coordonner tout ce travail, parce que c'est un gros boulot en amont. Donc cette année, on est encore incertain, on se concentre déjà pour finir cette saison 2018-2019, et puis on verra après.
Avec mon air con, reconnais partout mes salopettes râpées aux genoux et mes lunettes sur mon gros nez. C'est pourtant vrai que j'ai l'air con. Quand je tombe par hasard devant une glace, il m'arrive de me faire marrer. Je suis l'andouille qui fait l'imbécile, la coqueluche des durs au boulot. J'aime mieux faire marrer le polo que faire penser dans les familles. Que faire penser dans les familles. paquet de lessive. On dit que je m'écraserai comme un paquet de mouise. Pourtant, si la vente se maintient, je tiendrai jusqu'à l'été prochain. Je suis le plus obscène de la radio. C'est juste ça qui est rigolo. L'andouille qui fait l'imbécile. Mon nom sonne comme une maladie. Mais grâce à ça, je traîne au lit. L'air qu'on me fait la vie facile. L'air qu'on me fait la vie facile. J'ai pas de message, ni de méchanceté. Pourtant j'ai le grand avantage d'être détesté par la moitié. Des Belges, des Suisses et des Français. Mais je me fous bien de leur voix qui gronde. Je ne veux pas plaire à tout le monde. Je suis l'andouille qui a l'air imbécile. J'ai tendance à penser tout haut. Ça fait bouillir sous les chapeaux. Avoir l'air qu'on peut être utile. Être vraiment serait plus facile.
Puis Jean-Rémy Chaise, artiste qui passait le soir même à Saint-Laurent-du-Pont et qui débarquait de sa descente infernale en voiture, nous a livré ses impressions.
Bonjour Jean-Rémy Chaise, donc c'est bonjour. Votre vrai nom ou c'est un pseudo ?
Non, malheureusement c'est mon vrai nom. Ah, et vous avez pas... un pseudo, j'en aurais choisi un autre, je pense.
Oui, et vous n'avez pas pensé à en changer ?
Non, parce que j'ai pas eu le temps de m'intéresser à ça, j'avais trop de choses à écrire sur le spectacle, alors du coup j'avais plus d'inspiration pour mon nom.
Ah oui, en fait vous êtes devenu célèbre avant de penser au pseudo, d'habitude c'est dans l'autre sens.
Je sais pas comment ça s'est passé, mais il y a un problème d'identité en effet, un truc un peu trouble.
Après, peut-être que la chaise c'est un meuble qui vous tient particulièrement à cœur, est-ce que vous êtes debout sur scène ?
Justement, j'en ai deux de chaises sur scène.
Et voilà.
Voilà, donc en fait, on retourne, le problème est résolu, quoi, du coup.
Oui.
Voilà.
Donc, pour vous présenter, Jean-Rémy Chaise, vous êtes, paraît-il, un ovni dans le monde de l'humour.
D'accord, alors c'est qui dit ça ?
C'est Internet, non. C'est marqué
un
partout.
Mais peut-être parce que je suis peut-être dans un truc un peu différent, parce que je suis dans le personnage.
Voilà, c'est ça. Et actuellement,
dans le stand-up.
Oui, vous n'êtes pas dans le stand-up, vous n'avez pas choisi la facilité, en fait. Vous brisez le quatrième mur.
Voilà, c'est ça. Alors, je n'ai pas choisi la facilité, oui et non, parce que moi, je viens du théâtre. Alors, du coup, j'ai fait quand même quelque chose que je savais faire à l'origine. Donc, quelque part, la difficulté pour moi, ça aurait été de faire du stand-up, je pense. C'était un peu plus naturel pour moi de faire du personnage, quelque part. Par rapport à ma formation et d'où je viens, en fait.
Oui, il paraît que vous avez une formation ultra classique, mais du coup, est-ce que vous pouvez nous dire un peu qui vous êtes, votre parcours, comment vous en êtes arrivé là ?
Eh bien, mon parcours, c'est un parcours assez théâtral, en fin de compte. Donc, voilà, des études de lycée, option théâtre lourd, ensuite cours privé, ensuite conservatoire de Lyon, et puis après, je suis rentré à l'ENSAT, donc l'école de la rue Blanche, école nationale supérieure, donc un truc très très sérieux, très pompeux. Mmh. Voilà, donc une formation ultra théâtrale, plus des études universitaires. Donc voilà, je suis quelqu'un de plutôt très formé au classique, on va dire.
Oui, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Hein.
Ah non, pas du tout, au contraire.
Mais à quel moment est-ce que vous avez eu un déclic à vous dire c'est ça que je veux faire
Le théâtre ?
Oui.
Assez jeune. C'est vrai que j'ai toujours aimé jouer. Quand j'étais petit, je faisais beaucoup de spectacles, tout ça. J'ai toujours aimé me mettre un peu en représentation, me mettre en avant, enfin, en tout cas, me faire rire les gens, attirer l'attention sur moi. Donc, c'est un truc qui m'est venu assez jeune. Et j'ai commencé à faire des cours de théâtre comme on va au foot ou à la danse, chez le théâtre, voilà, dès 9-10 ans, quoi.
Et à quoi c'est dû ce besoin d'attirer l'attention sur vous ?
Ah, je sais pas. Ça, faut que je suis en train de le régler avec un psychanalyste, justement. je sais pas. Et bah pour beaucoup de raisons, dont beaucoup inconscientes, j'imagine. Mais ce besoin d'amour, en tout cas, je crois que c'est le besoin d'être aimé, en fait. Donc ça passe aussi par, ça peut passer par ce besoin de. Quand vous regarde.
Voilà. Non, je dis ça parce que apparemment vous êtes très très doué pour donner vie à des personnages qui sont seuls, névrosés. Est-ce que c'est des personnages que vous avez rencontrés dans votre vie ou
c'est... Oui, je crois que c'est en tout cas des personnages qui sont proches ou pas de moi, mais en tout cas des personnages qui viennent d'une observation assez intense. C'est-à-dire que j'aime beaucoup observer. J'ai toujours aimé observer autour de moi, et donc il y a des choses qui se rangent dans ma tête comme ça quand j'observe, et du coup après quand j'ai envie de parler d'un personnage, hop, elles ressortent comme ça. Donc oui, c'est des personnages proches de moi ou pas, en tout cas dans mon quotidien, dans ma vie sociale, mais en tout cas des gens partout que j'ai pu observer, ouais. C'est beaucoup d'observations, en fait.
Oui, parce que la galerie de personnages, elle est très vaste. Il y a la grand-mère qui radote, la caissière hystérique.
Alors, la grand-mère, elle peut être proche de moi, par exemple, parce que ça peut être la mienne, ça peut être, voilà. Après, il y a une maman atroce avec sa fille, ça, c'est pas ma mère, par exemple. Mais c'est des choses que j'ai pu voir sur la férocité, sur la monstruosité. Et c'est pour moi, ce sont des choses qui existent aussi dans la vie, quoi.
Et quel est, c'est lequel, le personnage où vous vous sentez vraiment le mieux ?
C'est marrant, c'est un peu ces deux-là. C'est-à-dire qu'il y a la grand-mère qui me rassure, qui me fait du bien, parce qu'elle revient plusieurs fois, en plus dans le spectacle. Elle fait une sorte comme ça de fil rouge. C'est un personnage qui est assez tendre, enfin, sur lequel je mets beaucoup de tendresse, qui est peut-être le plus normal de tous. Et il y a aussi cette mère que j'adore, qui est très jouissif à jouer parce qu'elle est monstrueuse, qu'elle est atroce, quoi. Donc il y a ces deux choses. Il y a à la fois la tendresse et la monstruosité, en tout cas.
Alors, il paraît qu'on rit jaune et qu'on rit noir et qu'on grince un peu. C'est quoi le rire jaune, le rire noir pour vous ?
Ah, c'est le rire qui est peut-être pas celui du divertissement pur et dur, quoi, qui est celui qui se décale un peu sur quelque chose qui fait un petit peu. Voilà, qui suinte un peu, quoi. Donc, je pars souvent d'une situation assez banale, on va dire, et je décale comme ça sur un truc absurde ou féroce qui va du coup emmener le rire d'un truc, un rire plutôt voilà sympathique sur un rire qui va un petit peu grincer, quoi.
Et apparemment vous êtes très très doué, je dis ça parce que je vous ai pas vu, mais vous avez eu un immense succès au Festival d'Avignon et vous avez été multiprimé dans tous les festivals de France, et en plus depuis 2017 vous avez eu votre premier portrait dans Télérama, donc Consécration, c'est officiel, vous faites partie des grands.
Consécration totale pour un abonné de Télérama, en plus que je suis abonné depuis 15 ans à Télérama, donc... C'est même pas volontaire. Non, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance, j'ai eu une belle presse, Le Parisien, Télérama, Portrait, Critique, des festivals, voilà, avec beaucoup de prix du jury, tout ça. Donc c'est absolument génial. Je pense que ce qui interpelle et ce qui plaît, en tout cas ce qui plaît ou qui déplaît, mais ce qui fait un peu l'identité du spectacle, c'est vraiment cette force théâtrale et cette incarnation de personnage qui, à mon avis, peut autant dérouter que plaire, mais qui fait que je suis un petit peu... je suis peut-être pas forcément là où on voit la majorité des choses, c'est-à-dire que voilà, je suis pas dans le stand-up, donc il y a un truc qui, à mon avis, est singulier, qui doit plaire aussi, qui fait un petit peu qui fait la différence, quoi.
Oui, d'où le titre du spectacle, on n'est pas des chiens, vous avez voulu dire quoi ? Qu'est-ce qui vous a frappé ?
On est tous des chiens, un peu.
Ah oui.
Ouais, c'est un petit peu, ouais, c'est un peu joué sur la contradiction. J'aimais bien le « on », le truc un peu anonyme, ce sujet-là. Le « on », c'est un peu tout le monde, quoi, n'importe qui. Et le côté voilà animal, qui est en fait, je pense, la part animale et bestiale qu'on a tous en nous.
Ah oui.
J'essaye de sortir à chaque fois des personnages. Donc en fait, on n'est pas des chiens, mais on est tous des bêtes, en fait. Voilà. Et puis ça permettait de faire une jolie affiche avec la collerette aussi.
Oui, c'est vrai. Voilà. Et selon vous, alors, la principale différence entre les chiens et les êtres humains, ce serait quoi ?
Peut-être que le chien est plus fidèle que l'être humain, je ne sais pas.
Non. Ça, c'est clair.
La principale différence, c'est que le chien n'a pas la parole, mais s'il l'avait, je pense qu'il aurait beaucoup de choses à dire sur l'être humain, en tout cas.
J'ai voilà. j'ai vu une annonce, d'ailleurs, c'est la SPA du coin, il y a un chien à donner qui est, ouais. qui en fait est sourd, mais qui comprend le langage des signes. Alors ça, je me suis dit, c'est pas mal.
C'est vrai. Vous
pourriez en faire un spectacle, peut-être.
Bah là, il y a un truc à faire, ça, c'est sûr. Ah bah, complètement, vous me donnez une belle inspiration, là. D'accord, bah, je vais me pencher sur le sujet, ouais.
Et quand on vous demande quel est le personnage que vous aimez bien, dont vous vous inspirez, c'est Karine Viard, curieusement.
Ouais.
Et pourquoi
c'est une actrice que j'aime bien, j'aime beaucoup sa sensibilité. Et je trouve que c'est une actrice qui peut tout jouer. Je l'ai vu dans beaucoup de choses, je l'ai vu au théâtre aussi, donc j'aime bien aussi les acteurs que je vois au théâtre, parce que j'aime le théâtre. Et je trouve qu'elle a une sorte comme ça d'empathie avec ses personnages, même des personnages, il y a certains films où elle est assez monstrueuse, et j'ai toujours trouvé qu'elle donnait beaucoup d'amour à ses personnages, même les pires. Et du coup, voilà, il y a une sorte comme ça de... il y a quelque chose de féminin chez elle que j'aime bien. Je trouve que voilà, elle est très attendrissante, très touchante, et je trouve qu'elle donne toujours, la chance à son personnage. Voilà, j'aime bien. Je trouve qu'elle condamne pas. Voilà.
Voilà. Et vous, quand vous sortez de scène, est-ce que vous mettez du temps à vous rappeler qui vous êtes, parce que on peut se dire ça doit donner un côté schizophrène d'incarner plein de gens comme ça.
Ouais. Alors, au début, c'était un petit peu compliqué au début. Il y avait une sorte comme ça. Puis en plus, c'est un spectacle qui va assez vite, où il y a beaucoup. Les transitions sont assez brèves. C'est-à-dire qu'on passe d'un noir à l'autre, tac tac, d'un personnage à l'autre comme ça. C'est un peu une autoroute pour moi. Je le prends comme ça. C'est vrai qu'au début, je sentais beaucoup de fatigue. Enfin voilà. Aujourd'hui, ça va un peu mieux. Et puis, je pense que c'est le propre du comédien. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut aussi jamais oublier qu'on est en train de jouer. Il ne faut pas se perdre dans le personnage, parce que sinon, ça devient complètement schizophrénique. Et je pense que du coup, là, ça ne va pas du tout. Moi, si j'arrive aussi à faire mon personnage et à l'incarner du mieux que je peux, c'est parce que j'arrive à me dire que c'est qu'un personnage et que ce n'est pas moi, justement.
Mmh. Et on parle beaucoup de votre voix éraillée. Comment ça se fait ?
Alors ça, j'y suis pour rien quelque part, parce que je suis né avec cette voix. Mm-hmm. Quand j'ai vu un phoniatre quand j'étais à l'école à l'ENSAT, il m'a mis une caméra dans la gorge et j'ai un trou d'air sur une des deux cordes vocales. Oh. Et donc je suis né comme ça, ce qui fait que petit j'avais la voix un peu cassée aussi.
Ah, oui,
et ça m'a rassuré quelque part, parce que c'est pas un nodule, c'est pas opérable, c'est comme ça. Donc après il faut apprendre à la gérer, à en prendre soin, tout ça, à placer voilà, les résonateurs comme il faut dans le ventre, tout ça, parler du ventre, pas dans la gorge. Et c'est une voix voilà, qui est née avec moi, en fait.
D'accord, donc c'est pas dû à des excès.
Non, bon, après, voilà, je peux pas vous dire que je ne suis pas quelqu'un qui fume une cigarette de temps en temps, voilà. mais c'est vrai que petit, j'avais aussi cette voix cassée, voilà. Mais je l'ai découvert, voilà, quand j'avais 22, 23 ans, la vraie raison, quoi. C'est un trou d'air, je l'ai bien vu d'ailleurs, j'ai vu la petite aspérité qu'il y a sur une des deux cordes vocales. Et donc voilà, donc, ce qui fait que ça donne cette voix un petit peu éraillée.
Oui, bah ça c'est impressionnant quand même d'être né avec ça et de faire de sa voix justement son métier.
Ouais, bravo. Ouais, c'est vrai. Mmh. Alors après j'aurais eu une autre voix, j'aurais fait sans doute le même métier d'ailleurs. Mais c'est-à-dire qu'il faut composer avec ça, quoi. Ça fait partie, c'est notre corps, notre voix, c'est aussi nos outils de travail en tant qu'acteur, donc il faut s'en servir et les mettre en avant, quoi.
Et là donc, en fait, l'interview à la base, c'est pour parler du festival Zygomatique.
Oui, bien sûr.
Et donc, c'est la première fois que vous venez en Chartreuse ?
J'ai joué à Grenoble.
Mmh.
C'est pas très loin, non ?
Oui, c'est pas vraiment la Chartreuse, mais bon, c'est vraiment ouais. pas loin.
J'ai joué il y a pas très longtemps, j'ai joué à côté de Chambéry.
Mmh.
Voilà, mais après j'y vais, je connais le coin parce que bah, quand je vais au ski, tout ça. Parce que je suis lyonnais, moi, donc je suis pas très loin.
Oui, c'est ça.
Voilà.
Oui, vous êtes donc un artiste local, on va dire.
Voilà, on va dire oui, une grande région Rhône-Alpes, quoi. Ouais.
Et donc, à Saint-Laurent-du-Pont, à la Maison des Arts, justement, les Saint-Laurent-du-Pontois, je sais pas comment on dit, les Laurentinois, vont avoir le plaisir de vous voir jeudi 4 avril à 20h30.
Voilà.
Ça va être sûrement un grand moment et moi, si je pouvais, j'irais bien. Je conseille aux auditeurs.
J'ai très hâte d'y être et de rencontrer le public. Voilà.
Et donc, c'est un one-man show délicieusement grinçant, je rappelle. Plus pour ados et adultes, je pense que les enfants...
Voilà, oui, on va dire qu'en dessous de 14 ans, c'est peut-être pas nécessaire, c'est de garder les enfants, on va dire.
Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne continuation, Jean-Rémy Chaise, et je vais suivre votre carrière de près. On va tenir les auditeurs de Radio Couleur Chartreuse au courant. Merci, bonne fin de journée. Au revoir.
Du plaisir, joue pas comme ça. C'est tellement brutal parfois. De Milo Vénus, l'amilo de Nunus. Je vais prendre deux rouleaux de papier toilette parce que j'en fais quand même une bonne consommation. Maman vient à regretter d'avoir mis au monde une petite fille si diabolique. J'avale ? J'avale ! Inclassable et incassable, qu'est celui de Cosette ! As-tu conscience de la gravité de ton acte ? Attends, attends, attends. J'espère que ça va tenir.
Tu commences le 2, tu vas jusqu'au 12, on est le 26, tu sais pas encore d'après.
Vous avez une tête de cul, ma peau. Ah bah oui, ah parce que sans ça, c'est la Bérésina. Alors ça veut dire que n'importe qui peut trouver un ticket de caisse qui traîne par terre, tu vas manquer à touche 4 fois au billet et t'appuyer dessus, et dire, ah bah je voudrais me faire cagnoter les produits qui cagnotent. Ouf.
Burne, burne, burne.
Ça déménage, hein? Il n'y a que vous qui pourrez vous rendre à la caisse centrale du magasin, hein? Oh, tu vas rire. Oh. Alors, on se laisse tenter? Qu'ai-je donc fait?
Enfin, nous terminons avec le récit haletant de l'arrivée à la maison de Emma Loisel et François Guédon, suivi d'un échange truculent sur les bienfaits de la chartreuse.
Alors, on est toujours dans la cuisine avec François Guédon, Marc Fraise, Emma Loisel, Charlène et Sylvie les bénévoles. Et là, on interroge François et Emma sur leur arrivée dans la maison au milieu des bois.
La fameuse maison des amis.
Voilà, le navire. Alors, quelles furent vos impressions?
Moi, je suis arrivé, on est arrivé hier soir, et je t'avoue que c'était... J'avais l'impression d'être dans un début de film d'horreur. Quand tu descends, la petite descente, il neigeait. On se disait, est-ce que ils ont réussi à déneiger le chemin? Mais ça vaut tout l'or du monde quand tu regardes maintenant, là, par la fenêtre, le matin, là.
Ouais,
tu vois toutes les cimes enneigées avec un peu de vent, c'est beau.
Le matin, il est 13h, François.
Bah, pour moi, c'est le matin. la journée commence, je suis au café... Faut pas me donner de la chartreuse aussi. Hein.
Sur pas de la verte. Et Emma, de ton côté, quelles furent les impressions?
Bah, moi, ça va. J'étais avec Jean-Rémy dans la voiture. C'est Loïc qui conduisait.
Oui.
Donc, ça va. On est content d'être arrivé. Voilà, c'était. On est content d'être arrivé. Voilà, d'être au chaud, tranquille. Voilà, non,
parce que c'est la première fois que tu viens,
ouais.
Emma. D'accord.
Tout à fait, ouais.
Tu es de la montagne ou tu es de la ville, toi, ou de la campagne?
Moi, c'est de la campagne à la base.
C'est de la campagne. Ouais. Donc les ravins, non, les voilà, les petites routes.
Moi, c'est le plat.
Le plat, c'est le plat, ouais.
Et allez, de chair, et
éventuellement un peu des collines. Bon, ouais. Allez, mais bon.
Un peu des collines. D'accord. Alors, tu nous expliquais quand même la petite manœuvre de demi-tour de Loïc qui t'a quand même fait poser quelques questions.
Non, parce qu'on fait toute la descente. Du coup, on se dit, ah bah c'est cool, voilà. On voit la maison, il nous
enfin,
dit c'est là.
Voilà. Voilà.
Et puis, il va sur le parking. Donc, moi, j'ouvre la porte, il me dit non, attends. Et donc là, il repart en marche arrière parce qu'il se prépare, je suppose, pour partir tout à l'heure. Parce qu'on sait quand on vit à la montagne, sans doute. mais voilà. Et donc, du coup, sauf que du coup, il en a dû faire, je sais pas, même pas un mètre en marche arrière, mais en marche arrière sur la neige, quand tu viens de te taper toute la descente, tu te dis bon, bah, c'est bon là, moi, je peux descendre. Vraiment, ça me. Je sais pas où tu vas te garer, mais moi, je peux m'arrêter là. Voilà.
Je suis partante pour descendre là. D'accord, on va te retrouver, Emma, en première partie ce soir du spectacle de Jean-Rémy. Tu nous en dis quelques mots de cette première partie. Je viendrai prendre des sons perso. Mais dis-nous en quelques mots pour nous mettre l'eau à la bouche.
Moi, ça va être un extrait de mon spectacle qui s'appelle « Femme de mère en fille depuis que l'homme est homme ». voilà, dans lequel voilà exactement, dans lequel je fais voyager l'humain au cœur de l'intime. c'est bien résumé, non?
C'est bien résumé,
voilà. Et non, et j'aborde des thèmes que certains jugent un peu tabou parfois ou pas, mais voilà, j'essaye de le faire avec humour et
sans
puis
tabou, si je comprends.
Exactement, voilà. D'accord. Et voilà, et je pense qu'on peut rire de tout. Je fais beaucoup de jeux de mots aussi, donc les amateurs de jeux de mots sont les bienvenus, et ceux qui n'aiment pas les jeux de mots sont les bienvenus aussi, parce que je fais plein d'autres choses.
Il y a une grosse finesse d'écriture, elle dit pas tout, il y a une grosse finesse d'écriture, et puis il y a un petit goût pour la provocation comme ça qu'elle attend tout au long du spectacle, et ça, moi j'aime beaucoup. D'accord. Je dis pas ça parce que c'est ma copine, mais j'aime beaucoup, non, c'est vraiment cool.
François, tu seras de la partie, si j'ai bien compris, ce soir, tu viendras soutenir tes collègues.
Reste à l'apéro avec la chanteuse.
Ok, et toi, on se retrouve quand et où?
Moi, on me retrouve en première partie des stéréotypes à Chambéry vendredi.
C'est pas demain?
C'est oui, demain. C'est demain, on est vendredi, c'est ça. Ça va en termes des jours? Tu arrives à te repérer? Et samedi à 5 à 5 pour le spectacle en entier, pour l'affaire Guédon.
D'accord, super.
C'est votre... Alors Emma, c'est ta première fois, François?
C'est ma troisième fois. J'étais déjà venu jouer au Jeudi des gens au site historique de Saint-Christophe-la-Grotte.
On nous a parlé, Héloïse, tout à l'heure.
Ouais. D'accord. Et j'avais fait la MJC de Chindrieux, il y a D'accord. de ça quelques mois.
D'accord. Et alors, pourquoi tu reviens?
Ben parce que pour la maison des amis, parce que cette maison, elle est magique, qu'il y a de la vie, ça rentre, ça sort. Tu regardes par la fenêtre, c'est magnifique. Et puis parce que Loïc et Héloïse sont adorables, donc oui, on revient avec plaisir, évidemment.
Ah ouais. Plus avec le petit bonus, partenariat avec les frères Chartreux, qui ne gâche rien.
Qui ne gâche rien, qui ne fait que sublimer la beauté déjà patente de ces lieux.
Je ne vous le fais pas dire.
Non, merci, je prends de l'eau. Et je dis, ah ouais, non, moi je trouve que c'est dégueulasse la Chartreuse. Et il y a Guédon qui dit, c'est délicieux la Chartreuse.
Alors vous carburez à laquelle? À la jaune ou à la verte?
La verte.
Ah, la jaune, ça sert à rien par contre.
Non, ça...
La jaune est inutile.
Alors je suis pas d'accord.
Ma préférée, c'est la Moff, tu vois. La centenaire, j'ai du mal. La 1605, pourquoi pas.
On sent les habitués.
Enfin, je suis arrivé à Grenoble, je suis allé dans un bar et les mecs ils m'ont fait goûter toutes les Chartreuses comme ça. Allez, dégustation.
Ouais, d'accord. Mais enfin, la jaune, elle se consomme quand même, je suis pas tout à fait d'accord avec toi.
Disons qu'elle se consomme plus en cocktail ou un truc
ou
comme
en
ça.
En apéritif, hein.
Ouais.
Elle est sympa aussi. Elle arrache un peu moins pour des néophytes, hein, parce que...
Ouais, mais je trouve qu'on perd l'intérêt de la Chartreuse. Pour le coup, gustativement parlant, ce qui fait la richesse de la Chartreuse, c'est le mélange de plantes, c'est le côté herbacé, c'est l'amertume.
On sent bien le mélange de plantes dans la jaune, je suis pas d'accord avec toi. Et je trouve que la verte, elle arrache vraiment, quoi. Faut avoir
elle
un peu
a plus de caractère.
C'est clair, je n'en manque pas non plus, mais c'est un peu fort quand même.
De Chartreuse.
Votre magazine local, culturel, éducatif, économique et environnemental.
Pour savoir ce qui se passe autour de chez vous.
C'est le samedi et le dimanche à 11h.
Zygomatic Festival, c'est de l'humour, mais aussi et surtout des shows renversants, bouleversants, captivants. C'est le cas de la méthode Urbain proposée par la compagnie des Décatalogués. Un thème, devenir maître du monde en 5 stratégies et en moins d'une heure. Il est dit que le commun mortel ignore qu'accéder à la gloire et à la postérité n'est pas affaire de chance, mais bel et bien de technique. Il est aussi dit que la méthode Urbain est une formation accélérée en manipulation des masses à l'usage de tous ceux qui ambitionnent de devenir maître du monde. Oui, et vous comprendrez pourquoi en écoutant l'interview de Marc André, coach certifié. Comprendre comment les puissants d'aujourd'hui en sont arrivés là, apprendre à devenir riche, à contrôler l'opinion publique et à bâtir un monde meilleur à votre image, c'est le défi du coach. Et c'est ce soir aux échelles à 20h30. Dans la presse, on dit, je cite Vivant Mag, profondément contemporain de par sa forme et son contenu, ce spectacle nous embarque sans aucun temps mort. Sous une forme légère, cette comédie interpelle sur des faits sociétaux, notamment sur la protection des données privées dans notre société, qui est clonisée par le numérique. On écoute Marc-André. Allô ?
Oui, allô ?
Bonjour. Oui, bonjour. Alors, merci d'être avec nous. Marc-André Urbain, c'est bien ça ?
Exactement.
Voilà. Alors, pour les auditeurs de Radio Couleur Chartreuse qui ne vous connaissent pas, qui êtes-vous ?
Alors, moi, je suis coach pour devenir maître du monde.
Mais donc, vous êtes coach depuis quel âge ? Comment ça vous est venu ?
Alors, je suis coach pour devenir maître du monde. Ça fait déjà environ 25 ans que j'exerce ce talent-là. Et j'essaye de former un petit peu les dominants, les puissants de ce monde à arriver aux plus hautes responsabilités. Et j'en ai même fait un show donc que je vais avoir le plaisir de présenter aux Chartreuses. D'ailleurs, je me permets de vous reprendre parce que j'étais en train d'écouter tantôt et j'entendais que vous parliez des naissances et des décès qu'il y avait eu récemment.
Oui.
Et j'aurais apprécié que vous puissiez citer Jim Flaherty, qui était un homme politique canadien qui nous a quittés il y a déjà 5 ans, là, aujourd'hui.
Ah mon Dieu, oui, mais voilà. On est en Chartreuse, c'est ça le problème, j'ai pas eu l'info.
Voilà. Qui était l'ancien ministre des Finances canadien, qui est notamment un des pères du courant zaélilunien. Alors, je connais pas toute la traduction en réel en français, mais voilà, c'était un grand homme.
Ah, mais c'est de là que vous vient ce merveilleux accent. Je me disais, mais ça me change de d'habitude, qu'est-ce que c'est ? Pourtant, j'ai Philippine à mes côtés qui souvent fait des chroniques avec cet accent-là. Mais c'est magique, mais vous venez du Canada ?
Oui, je suis québécois, exactement.
Ok. Et donc, vous avez tellement maîtrisé les techniques pour manipuler le monde que vous êtes arrivé jusqu'en France. Depuis quel âge ?
Alors, en fait, je passe environ, une grande partie de mon année en France, mais en Europe plus précisément.
Bon, moi j'adore votre affiche, vous êtes habillée tout en rouge, un pied posé sur le monde, et j'ai regardé vos vidéos, vous avez une apparence de personne très sérieuse, et puis en fait c'est le délire complet.
Alors bon, c'est pas tant du délire que ça, puisque on pourrait dire, mais ce gars-là, il est toujours en train de changer, vraiment de virer son capot de bord tout le temps. Mmh. Et non, pas du tout, c'est quelque chose de très sérieux, puisque on est d'accord qu'entre nous, s'il n'y avait pas des coachs comme moi, eh bien, vous auriez pas Donald. Bon, c'est pas ma plus franche réussite, hein, Donald Trump, évidemment. Mmh. Mais évidemment que si jamais j'étais pas là, il peut pas devenir président.
Bah tout à fait. Et on n'aurait pas eu Hitler non plus, parce qu'il doit s'en arriver au pouvoir entre autres à Goebbels, qui avait dit que s'il avait soutenu le parti d'en face, le parti d'en face aurait gagné. C'est pas d'hier, hein, la manipulation des foules.
Alors non, c'est pas d'hier. D'ailleurs. Par rapport à ça, puisque vous parlez de cette période-là, je pense qu'il faut plutôt rendre hommage à Edouard Bernays, qui a écrit l'excellent Propaganda, qui était le neveu de Freud et qui a permis la manipulation des foules. C'est un des premiers avec Gustave Le Bon.
D'accord. Et bon, on apprend plein de choses aujourd'hui avec vous. Et donc, pourquoi ça vous intéresse, l'idée de la manipulation, justement ? Est-ce que vous en avez été victime quand vous étiez enfant ?
Alors, non, j'ai pas tellement été victime de manipulation. Non, l'idée, c'est vraiment de comprendre la population. Pourquoi ? Parce que on le voit bien actuellement que vous avez en France la crise qu'on appelle la crise des gilets jaunes, et donc qui consiste à penser qu'il y a une grande partie de la population là qui est en souffrance Et donc, je me dis, il y a beaucoup de monde, il y a une grande partie du peuple qui est en souffrance. Et puis, si on observe l'intégralité des statistiques, il semble bien que ce soit une majorité de la population.
C'est clair.
En fait. Et donc, si cette majorité de la population réfléchit, bon, c'est pas tellement logique qu'elle nous mette, nous, les élites, au pouvoir en permanence. C'est donc qu'elle doit pas tant réfléchir. Et dans ces cas-là, il convient, pour bien tirer notre épingle du jeu et se payer de la traite, là, d'être capable de correctement les manipuler. Je suis pour une manipulation du peuple éthique.
D'accord. Après, voilà. Vous dites que c'est pas le délire, vos spectacles, mais quand même, est-ce que vous allez oser dire à la radio quelle est la phrase rituelle que vous dites avant vos spectacles ? Qui commence par « on se sort
les... » Pour moi, les gens sont des « winners ». Voilà, c'est important que les gens soient des winners. Je pense que vous pensez à ça ou vous faites autre chose, là ?
Non, je pensais à votre phrase rituelle d'avant-spectacle, justement. On se sort les...
Alors, ah oui, alors, évidemment, Je sais pas comment vous connaissez ça, là.
Je sais tout. Moi aussi, je suis mentaliste, attention.
Vous êtes bien renseigné. Effectivement, on se sort les doigts du cul et on fait de l'art.
Voilà, c'est ça. Et ben, bravo pour avoir osé dire ça à la radio, déjà. Hein.
Ah ben non, mais vous savez, c'est pas un problème pour moi, pantoute, là, parce que dans la mesure où vous êtes extrêmement écouté, je crois que c'est important de faire passer les bons messages.
Ouais, merci. Et donc, vous dites que vous êtes un coach certifié, vous avez fait une formation, vous avez appris sur le tas, comment vous connaissez toutes ces méthodes?
Alors, moi, personnellement, je suis diplômé de l'université d'Harvard, où j'ai appris un certain nombre de techniques de domination, effectivement, permet de pratiquer la mentalisme. Vous voyez, l'idée est de pas trop dormir au gaz, quoi.
Mais ça ne serait pas une technique de manipulation pour nous impressionner par hasard? Est-ce que c'est fake news ou pas?
Alors, ce qu'on appelle un biais d'expertise, exactement.
Voilà. Non, mais je suis plutôt jeune, moi j'ai un peu d'expérience, donc c'est pour ça.
Non, mais c'est un biais d'expertise, tout à fait, mais vous voyez, le propre des manipulations, c'est que si jamais vous les expliquez d'un point de vue théorique, toute façon, il faut se dire que la plupart des gens du peuple ne sont pas assez intelligents pour comprendre, ils vont vous faire confiance quand même.
Oui, c'est ça le malheureux, ouais.
Alors oui, le malheureux si on se place du point de vue de la majorité.
Oui.
Mais je pense, moi, en tant que coach pour dominant, qu'il vaut mieux se placer du point de vue de la minorité qui a le pouvoir.
Tout à fait, bah, c'est clair si on veut arriver à quelque chose. Non, mais après, moi j'étais la première à dire en ce qui concerne les gilets jaunes, en premier, ils devraient regretter d'avoir écouté tout le monde et d'avoir voté pour quelqu'un dans l'idée de voter contre quelqu'un d'autre. Enfin, ça c'était déjà de la manipulation à la base.
Oui, j'avoue que sur ce coup-là, c'était moi qui avais conceptualisé ça pour Manu, enfin Emmanuel Macron, le président. Et j'étais pas peu fier de moi sur cette affaire-là. C'était vraiment, d'ailleurs, c'est ce que mon mentor Jim Flaherty, dont on parlait au début, hein, un des fondateurs du courant Zahel Lilunien, dont je parlais tantôt, avait fondé comme doctrine. Et je pense que vous n'avez rien compris. Vous avez d'ores et déjà oublié le début de ma phrase, normalement.
Oui, tout à fait.
Voilà. Je confirme. Excellente technique de manipulation. Vous voyez, c'est une façon vraiment de tourner les coins ronds qui est parfaite.
Ah oui, d'accord. Non, parce que souvent je me perds dans les phrases des gens, mais donc c'est pas de ma faute, c'est eux qui font
exprès. Ah non, là, disons que j'ai regardé voir Philippe hier, comme ça, à la radio, et j'essaye de faire la même chose.
Ah, oui, j'allais dire un bon exemple.
Ah ben, ouais, ça marche terriblement, quoi. Ou plutôt que d'aller au plus sacrant, l'important, c'est de faire en sorte de donner des éléments qui sont de valeur.
Oui. Et donc, si on va voir votre spectacle, on peut apprendre, par exemple, à devenir riche?
Alors, oui, on peut apprendre à devenir riche, manipuler l'opinion publique. Mmh. On va apprendre ces techniques-là, mais n'oublions pas que c'est une sélection. Il s'agit là de trouver quelles sont les personnes qui, de sélection en sélection, sont à même peut-être un jour de dominer le monde et donc de remplacer Donald.
Oui.
Donald, rien à voir avec la vie de Mickey. Hein.
oui, je sais. Voilà. Non, mais ce pauvre Donald, j'en entends parler par tout le monde. C'est vrai que personne ne l'aime. Hein?
Alors, si, moi, personnellement, je l'apprécie grandement. Pourquoi? Parce que je crois que le fond du fond pour nous, les coachs, un petit peu les gens de l'ombre, c'est d'avoir un maître du monde qui soit lui-même manipulable. Une façon de dire que la boucle est bouclée.
Et vous pensez que Donald Trump est manipulable?
Bah écoutez, ça, je pense, il faut qu'on en discute la prochaine réunion du Bilderberg.
Mais est-ce qu'il y a des gens qui sont plus manipulables que d'autres? De quoi ça dépend si on l'est ou si on... plus ou moins?
Pardon, j'ai pas compris votre question.
Est-ce qu'il y a des gens qui sont plus faciles à manipuler que d'autres?
C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire là-dedans?
Par exemple, vos techniques de manipulation, est-ce qu'elles marchent mieux sur certaines personnes? Je sais pas, est-ce que pour ne pas être manipulé, justement, est-ce qu'il y a des armes?
Bien évidemment, mais si vous voulez préciser à quelle arme vous pensez?
l'intelligence.
Voilà. Donc là, vous voyez, depuis le début, j'ai tout à fait compris ce que vous voulez dire. C'est simplement qu'à force de vous faire reformuler, je vous place dans une impasse. Donc voilà, c'est l'impasse de la pensée. Donc tout le monde est tout à fait manipulable, évidemment. Pourquoi ? Parce que déjà, il y a l'amour.
Il y a la quoi ? J'ai pas entendu.
Il y a l'amour.
L'amour ?
Ah ouais, c'est quand même une première forme de manipulation qui est absolument terrible. Hein. Vous voyez, dès le plus jeune âge, tous les enfants sont persuadés que leurs parents les aiment, alors que non, ils ne sont qu'un sujet d'entraînement pour eux, pour parvenir à dominer leur contemporain.
Ah, non mais c'est l'interview la plus intéressante que j'ai faite de toute ma vie. Je vous remercie,
franchement. Moi de même, je vous avoue que c'est de loin les questions les plus intelligentes qu'on m'a posées depuis bien longtemps.
Ah, il va falloir qu'on se rencontre.
Tant bien, je serai aux échelles bientôt.
Ah ma fille. Ouh là là, une grande histoire d'amour qui commence en direct. Vous êtes disponible ?
Alors, oui, tout à fait, mais je ne suis pas vraiment de ce bord-là.
Ah mince, ça y est, le destin, le karma.
Non, je ne parle pas d'hétérosexualité ou d'homosexualité, hein, je parle vraiment de moyens financiers.
Ah, d'accord. Mais moi, j'en ai pas non plus, où est le problème ?
Voilà, oui, c'est bien, alors, c'est que je voulais pas prendre la tête à Papineau non plus, mais bon.
Non, mais l'idée, c'est de vivre d'amour et d'eau fraîche, non ?
Oui, eh bien, écoutez, d'autant plus qu'en Chartreuse, je crois que vous avez une boisson locale.
Voilà,
c'est parfait.
De Chartreuse et d'eau fraîche, oui, ça nous ferait un slogan. Non, de Chartreuse et d'amour, ce serait encore mieux.
Oui, ou de Chartreuse et d'amour, à savoir que c'est vrai que vous êtes dans une région difficile et il faut au moins une boisson à 50 degrés pour arriver à trouver l'amour, parfois, je comprends.
Une région difficile, comment ça ? Difficile en quoi ?
Je vous cache pas que globalement, c'est vrai que la France est une région assez difficile.
Ah ? Est-ce que vous pouvez vous exprimer de façon plus précise ?
C'est-à-dire que là, moi, j'ai été catastrophé d'observer cette histoire de grand débat. J'ai eu une peur terrible au départ, je vous avoue. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe en France, là ? On avait bien travaillé avec Manu, qu'est-ce qu'il nous sort son grand débat ? J'ai vraiment cru qu'il y avait une histoire de vraie démocratie qui allait y arriver et survenir. Ça m'a inquiété. Bon, je suis rassuré, là, je vous avoue, toutes les dernières déclarations me font bien comprendre que même moi, je me suis laissé manipuler. Bon.
Oui, parce qu'en parlant de manipulation, la fameuse idée selon laquelle ce cher Manu dirait exactement la phrase qu'il ne faut pas au moment où il ne faut pas, est-ce que c'est de la manipulation, ça ?
Ah bah oui, puis je vous prie de me croire qu'on passe un certain temps au téléphone à les concevoir ces petites phrases-là, parce que la presse tombe systématiquement dans le panneau. Vous voyez, parce qu'on est tellement dans le temps du buzz, du clash, que il suffit simplement de leur donner un petit Kinder à manger et ils vont limite aller vous chercher du doigt. Je ne sais pas si vous comprenez l'expression, mais ça signifie bien qu'il faut prendre le chocolat au lieu... Et donc ça, c'est quelque chose qui vous nourrit, d'une manière générale. Mais les gens ont l'air d'être contents d'entendre des petites phrases. Ça ne les nourrit pas, ça leur donne l'impression d'eux. Et précisément, si vous voulez bien manipuler les gens, il faut juste leur donner l'impression d'eux.
Mais parce que quel est le but, par exemple, quand il dit qu'il n'y a qu'à traverser la rue pour trouver du travail, son but à lui, c'est quoi ?
Son but, c'est simplement de satisfaire les personnes qui lui permettent d'être au pouvoir. Alors, ouais. Si vous partez du principe que c'est les gens qui votent, là, je vous garantis, vous avez tout faux. C'est absolument pas comme ça. Aujourd'hui, pour être au pouvoir, en réalité, j'ai très bien conceptualisé cette chose-là. C'est moi qui lui avais dit, mais tu sais quoi ? Écoute, Marc-André, j'ai pas de programme, j'ai pas d'idée, j'ai pas de parti. J'ai rien du tout, à part un petit réseau. Je lui ai dit, mais tu t'inquiète pas. Il va suffire simplement de convaincre 12 ou 13% des gens de te suivre. Et avec ça, tu peux-tu devenir le président, bien sûr. Et je suis très content de moi parce que ça a marché du tonnerre.
Eh bien, je vous félicite, Marc-André, mais par contre, il va falloir qu'on passe à la suite de notre émission. Donc, vraiment bravo pour ce que vous faites. Je vais vraiment sérieusement essayer de vous voir. Comme ça, peut-être qu'ensemble, on pourra bâtir un monde meilleur à notre image.
Eh bien, faisons ça.
Voilà. Donc, je vous dis à samedi 13 avril à 20h30 aux échelles à la salle des fêtes.
en espérant que l'intégralité de l'audience ne soit pas tout à fait mélangée comme un sac de clous.
Oui. D'accord. Et bonne fin de journée.
Au revoir.
Au revoir.
La méthode Urbain est la solution coaching adaptée à chacun pour enfin devenir rapidement maître du monde. Mesdames et messieurs, chers stagiaires, bonjour! Tu manges quoi? Un croissant. Juste à côté de gens qu'on faim, qu'on pas dormi de la nuit, qu'on fait la fête. Non, mais vous verriez les têtes de ceux de devin, c'est incroyable. Hein.
Je t'ai demandé de penser à une marque et on va tous essayer de savoir à quoi pense Olivier. Moi, je dirais ça. Moi, c'est ce que je reçois, je pense comme la plupart d'entre nous. Quelle est la marque à laquelle tu as pensé comme ça?
Adidas.
Mes entrailles, je ris. Oh, j'ai bien fait la fête, je ris. Et je n'ai pas laissé de reste, rien dans mon assiette, ouais, je ris.
Nous ne vous cachons pas que nous avons beaucoup apprécié, Philippine et moi-même, cette immersion au milieu de nulle part qui s'est terminée par un chouette repas dehors, au soleil, concocté par Clémentine. Nous avons bien sûr ri au fil des traits d'humour qui ont fusé à table, et c'est sûr, nous reviendrons l'année prochaine, et vous serez également au rendez-vous, j'espère. Nous vous rappelons que le dernier spectacle du Zygomatique a lieu ce soir à la salle des fêtes des Échelles, et qu'il s'agit de la méthode Urbain. Ne le ratez surtout pas. Quant à nous, à très bientôt.
Serpent à sonnette, je ris à la fenêtre, je ris de tout mon être, et je ris de tout mon corps, mon amour, je ris du haut de la tour, je ris, car ce soir je m'évapore, si tel était mon sort, et je ris à la fenêtre sans garde-corps. Je m'évapore, si t'es